Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Lecture par tous avec le bazar d'hiver. Voilà, on a eu un bazar de fin d'année, un bazar de Noël, et on vous propose aujourd'hui un bazar d'hiver, bazar littéraire, bien entendu. Bien entendu. Alors, pour mettre le bazar avec moi autour de la table, Hélène Honora. Bonjour Hélène.
Bonjour Marc.
Rachel Millot.
Bonjour.
Et Laurent Solvoot.
Bonjour.
Voilà, alors, et puis Marc Sorgue en ce moment au micro. Alors, eh bien, nous allons parler de différents livres récents, pas récents, très anciens presque, voilà, qui nous ont touchés, intéressés. Et on trouve que c'est bien d'en parler maintenant. Allez, bah tiens, Hélène, on va peut-être commencer par ce que tu nous proposes. Alors, ça s'inscrit un peu dans la perspective de la comédie du livre, qui sera helvétique cette année, hein, avec un auteur suisse. Alors, ce n'est pas un contemporain, hein, plus tout à fait maintenant.
Il est mort en 1998.
Voilà, donc c'est presque un contemporain, hein, on va dire, quand même. Hein, ce n'est pas Ramu ou je ne sais quel autre, ou Jean-Jacques Rousseau, comme
non,
auteur suisse.
Non,
on est plus récent. Un grand voyageur, Nicolas Bouvier. Alors, tu veux nous parler pas de son titre très connu, hein, mais d'autres titres un petit peu moins connus.
Voilà, pas de L'usage du monde, qui est son livre certainement le plus connu, avec Journal d'Aran et d'autres lieux et Le poisson scorpion, mais j'ai apporté de petits textes, justement moins connus, et j'ai bien conscience du fait que c'est un paradoxe, voire une provocation d'apporter des livres illustrés pour la radio, mais justement, c'est parce que je voudrais les faire découvrir.
Oui, mais on peut dire aux auditeurs de bien regarder leur poste. Peut-être qu'ils verront quelque chose.
Non, mais on leur en dira quelques mots. Donc, parce que Nicolas Bouvier était certes, comme tu l'as dit, écrivain, voyageur, photographe, mais il a été iconographe pendant 30 ans. Donc, iconographe, c'est-à-dire qu'il cherchait des images pour des auteurs, pour des administrations, pour des clients, et il écumait les musées, les bibliothèques à la recherche d'images, d'iconographie. Donc l'image est indissociable de son œuvre. Alors, Le Hibou et la Baleine, c'est un petit opuscule qui accompagnait le film du même nom. Mais ça peut parfaitement se lire sans avoir vu le film, c'est mon cas. Donc, Le Hibou et la Baleine, ce sont une dizaine d'images et Bouvier brode autour. Et celle qui donne son titre au recueil, c'est une gravure du 19e qui montre d'abord en détail et puis en entier une chasse à la baleine avec l'énorme animal sur une mer démontée, couverte d'icebergs avec au fond des navires. Et puis, on voit une minuscule barcasse avec des pêcheurs munis de harpons. Et sur la barre de gouvernail, on voit effectivement le hibou perché. Et Bouvier nous dit que c'était ces animaux tutélaires, ses amis, et que ça remontait à l'arche de Noé. « Vous me direz que la baleine n'était pas dans l'arche », écrit-il. C'est vrai, elle batifolait autour avec cette anxiété maternelle des mammifères marins qui, depuis toujours, nous porte et témoigne une affection à laquelle nous ne comprenons goutte parce que nous sommes si cons.
Ah, carrément, allez.
Carrément. Et la fin de l'histoire, c'est que son deuxième enfant est né à Tokyo en 64. Il se trouve dans un bistrot parce que les bonnes sœurs prussiennes, les religieuses prussiennes, l'ont expulsé de la salle d'accouchement. Il est au bistrot, il s'endort sur la liste des prénoms qu'ils avaient ébauchés, sa femme et lui. Et quand le patron m'a réveillé, j'ai pu lire en bas de page, sous Mathieu, Adrien, Manuel, Antonin, hein, les prénoms auxquels ils avaient pensé, deux lignes d'un graphisme hypnotique tracées par une main qui était pourtant la mienne, pour parrain et pour marraine, le hibou et la baleine.
Voilà, qui donne envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, je m'attendais dans la liste des prénoms, tout d'un coup, je me dis, on ne va pas quand même avoir Ismaël qui va arriver. Hein, pour le Ismaël qui est le prénom qui ouvre Moby Dick, un autre roman de baleine.
Non. Alors, il y a un autre chapitre qui s'intitule « La musique », qui est illustré par son ami Thierry Vernet. Du moins, il a repris des dessins en noir et blanc très puissants de Thierry Vernet. Et il raconte une histoire, il rappelle une histoire qu'il raconte également dans un autre de ses livres. Donc il y a deux gravures en noir et blanc, un musicien et puis un groupe de musiciens. Et l'histoire qu'il raconte, c'est celle des explorateurs, 30 années auparavant, qui étaient en expédition sur l'Orénoque. Leur guide tombe à l'eau et se noie, leur guide interprète. Il se trouve face à des Indiens extrêmement hostiles, qui bandent déjà leurs arcs et qui préparent leurs flèches enduites de curare, hein, des coupeurs de tête, des givaro coupeurs de tête. Que faire? Pas d'armes, plus de guides, plus d'interprètes. Il y en a un qui sort un petit magnétophone à cassette et qui joue du Mozart. Les Indiens s'immobilisent, baissent leurs armes, sortent des flûtes en bambou et improvisent sur la musique de Mozart. Fin des hostilités.
Belle histoire, une belle histoire qui me fait penser à celle d'un musicien classique qui est argentin, qui lui allait jouer aussi pour les Indiens Mozart et compagnie, c'était Miguel Angel Estrella qui diffusait comme ça Mozart au fin fond des pampas argentines. Et voilà, une belle histoire, hein. La musique classique, c'est quelque chose qui me touche en plus. Alors, voilà, Nicolas Bouvier, tu en as d'autres, on en reparlera peut-être si on a un petit peu de temps encore. Alors, Rachel est venue avec un gros pavé impressionnant, édité par Flammarion, et il s'agit de
L'art de perdre de Alice Zeniter, qui avait reçu le prix Goncourt des lycéens en 2017.
D'accord, donc c'est pas très ancien.
Non.
Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, Alice Zeniter est une jeune femme qui est née en 1986 en France, d'une maman française et d'un papa kabyle. Et donc, elle s'est inspirée de son histoire pour écrire ce roman. Alors, le roman raconte l'histoire des Harkis, d'une famille Harkis, depuis les années 30, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est un livre qui fait 500 pages, je crois. Donc, elle raconte, en fait, ce que son papa ne lui a pas raconté, ce que ses grands-parents ne lui ont pas raconté, et qu'elle est allée donc chercher... voilà. Alors, son papa, en fait, avait vécu le traumatisme de la guerre d'Algérie. Ils sont arrivés donc en 62, juste après la signature de l'indépendance. Son papa a été très marqué par la guerre et ensuite par le camp de Rivesaltes où ils sont restés quelques mois. Et puis ensuite par l'arrivée dans une cité HLM en Normandie. Voilà. Donc voilà, elle est allée chercher dans les archives, elle a recueilli des témoignages, elle est allée en Algérie voir sa famille. Donc voilà, le personnage principal s'appelle Naïma. Je pense que Naïma, c'est un petit peu Alice, mais bon, je ne sais pas dans quelle mesure. Et alors, elle aborde en fait une infinité de thèmes dans ce roman. Les thèmes principaux vont être les relations entre la France et l'Algérie au fil du temps, l'exil, la transmission familiale, enfin, il y a une infinité de thèmes dans le roman. J'ai essayé, parce que c'est pas facile, d'isoler un extrait, si vous voulez bien que je vous lise
un petit extrait.
Un
oui.
Petit extrait. Alors, c'est un extrait où, en fait, la narratrice raconte comment son père, quand il était enfant, et ses frères et sœurs ont investi le français et ont du coup abandonné l'arabe. Et donc c'était difficile pour les parents. Alors, ils parlent de moins en moins à leurs parents, de toute manière. La langue crée un éloignement progressif. L'arabe est resté pour eux un langage d'enfant qui ne couvre que les réalités de l'enfance. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est le français qui le nomme. C'est le français qui lui donne forme. Il n'y a pas de traduction possible. Alors, quand ils s'adressent à leurs parents, ils savent qu'ils s'amputent de toute une maturité nouvelle et qu'ils redeviennent des gamins de Kabylie. Il n'y a pas de place dans les conversations entre l'arabe, qui pour eux s'efface dans le temps, et le français, qui résiste à leurs parents, pour les adultes qui sont en train de devenir. Ali et Yema, donc les parents, les grands-parents finalement de Naïma, regardent l'arabe devenir langue étrangère pour leurs enfants. Ils entendent les mots qui échappent de plus en plus, les approximations qui se multiplient, le français qui vient truffer la surface des paroles. Ils voient l'écart qui se creuse et ils ne disent rien, à part peut-être de temps en temps, parce qu'il faut dire quelque chose. C'est bien, mon fils.
Oui, ça, c'est, je trouve que ce que pointe l'auteur là est...
C'est
bien vu, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est, oui, comment elle décrit, comment voilà, on devient étranger dans sa propre famille, par la langue.
Et on le voit plusieurs fois dans le roman. Mmh. Alors là, c'est par la langue, mais après, on voit plusieurs fois dans le roman la distance en fait, qui se creuse entre le fils et les parents, qui, voilà, qui chacun essaie de s'adapter en France, parce que c'est difficile, surtout au départ. Et les enfants, ils arrivent à s'adapter. Et les parents, ils sont contents que leurs enfants s'adaptent.
Oui.
Et pour eux, c'est, voilà, c'est compliqué.
Donc, je trouve ça tout à fait intéressant. Parce que lorsque l'on parle de ce genre de problématique, en général, c'est les étrangers au milieu des Français. Et là, on rentre dans la famille, dans ce que tu nous en dis.
Ouais.
Et on voit comment ça crée de la fracture, on pourrait dire ça comme ça, au sein même de la famille. Quoi. C'est pas juste entre étrangers, immigrés et... nationaux, entre guillemets, c'est au sein même des familles que ça se joue.
En fait, juste pour rajouter une chose, je pense qu'aussi ça dénote d'une... Il y a eu une transformation par rapport à ça. Je pense que dans les années 60, effectivement, dans les 50-60, les familles étrangères avaient pour... mettaient un point d'honneur à ce que leurs enfants s'expriment en français et tentaient de s'exprimer eux-mêmes en français, tandis que qu'aujourd'hui, on met plus en valeur le fait du bilinguisme.
Oui.
Et donc, il y a un rapport différent, je pense, à l'intérieur des familles. Effectivement, dans les années 50-60, ça mettait les enfants, finalement, dans une position un peu de supériorité par rapport à leurs parents.
Oui.
Chose qui n'existe plus forcément nécessairement aujourd'hui.
Oui, c'est ce qui est décrit aussi dans le livre, décrit le moment où son père a appris à lire et écrire, alors que ses parents ne savaient pas lire et écrire. Et donc, il avait cette position un petit peu supérieure, mais difficile pour lui, de faire le lien entre la culture française avec ses parents qui, eux, étaient illettrés. Donc.
Comme quoi, la littérature nous permet bien de comprendre le monde.
C'est ça,
Et là, je crois qu'on est une belle démonstration.
Et un très beau livre, très bien écrit, vraiment un très beau récit.
Voilà. Et puis, on le recommande, nous sommes quand même dans une région où beaucoup de harkis se sont installés, après la guerre d'Algérie. Une ville comme Lodev, il y a des quartiers entiers qui sont... Enfin, ils ont été très nombreux, en tout cas. Voilà. Donc, pour comprendre un peu le monde qui nous entoure, l'art de perdre... Alice
Zeniter.
Et c'est
chez Flammarion.
Alors, allez, Laurence, on va que tout le monde puisse parler quand même. On va donner la parole à Laurence. Alors la parole. Ah, il aurait fallu te donner un crayon plutôt d'ailleurs.
Ou une
caméra. Puisque tu veux nous parler d'un. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Roman, récit. Le récit, allez, on va dire récit quand même.
Un récit. Oui. Une bande dessinée.
Une bande dessinée.
Classique.
Un livre dans lequel il n'y a pas un seul mot d'écrit.
Mais voilà, c'est une bande
sur la couverture, le titre.
Voilà, sur la couverture, le titre, et sur la quatrième de couverture, un petit texte que je vous lirai tout à l'heure. Il s'agit d'un océan d'amour. Une bande dessinée qui a été. Dont le scénariste s'appelle Wilfried Lupano et le dessinateur Grégory Panaccione. Donc c'est une bande dessinée qui n'est pas tout à fait récente, elle est de 2014. Pourquoi je l'ai ressortie là, c'est que tout à fait de façon étonnante, dans la librairie La Géosphère ici à Montpellier, elle a été mise sur une table en évidence, donc comme si c'était une nouveauté. Donc c'est effectivement un coup de cœur de la libraire et qui m'a rappelé le coup de cœur que j'avais eu en la découvrant. Et régulièrement, c'est une bande dessinée que je ressors deux, trois fois dans l'année parce que elle me plaît beaucoup. Alors, Un océan d'amour, bande dessinée muette, où il y a beaucoup de mouettes, puisqu'il s'agit des aventures d'un petit marin breton et de sa femme, la grosse bigoudaine, qui donc vivent une vie liée à la mer, bien entendu, puisque dès les premières images, on voit le petit mari qui se réveille de bon matin, sa grosse bigoudaine qui lui prépare sa crêpe au lard et à l'œuf, qui lui prépare aussi sa boîte pour, avec son repas. Donc là, on se rend compte qu'il y a des petites tensions entre eux, parce que dans sa boîte, elle lui met des boîtes de sardines. Des sardines qui s'appellent sardines à l'huile délicieuses. Voilà. Et donc cette petite boîte de sardines, on va la retrouver tout au long du récit.
Et puis j'ai envie de dire, pour les gens qui voudraient retrouver le livre dans une librairie, on le trouve dès la couverture, la boîte de sardines.
Oui, il y a la sardine sur la
couverture. Il y a une sardine et puis la couverture ressemble à une boîte de sardines. C'est vraiment inspiré.
Voilà, donc il part au petit matin, il fait encore nuit dans la tempête un peu, dans le temps un peu tempétueux breton. Donc tout est un peu sombre, les dessins sont vraiment très très expressifs. Et donc... on va partir avec le marin sur son petit bateau. C'est un petit bateau de pêche. Il part avec un compagnon. On comprend que la pêche est difficile sur le littoral breton, qu'il n'y a plus beaucoup de poissons, il y a beaucoup de déchets qui remontent dans les filets. Donc, de dépit, à un moment, effectivement, ils se mettent à déjeuner. Donc là, il ressort la petite boîte de sardines. Et puis, tout à coup, c'est à la page 23, je crois, 23-24, l'élément perturbateur du récit arrive et le petit bateau tout petit se retrouve face à un immense bateau de pêche industriel qui s'appelle le Goldfish. Et là, tout va basculer. Le petit bateau se retrouve pris dans l'immense filet de ce bateau de pêche. Et là, c'est la catastrophe. Et tout le récit de catastrophe et d'aventure va commencer. Bien entendu, le bateau ne rentre pas le soir au port. Donc la grosse bigoudaine attend de façon un peu désespérée. Donc là, il y a des scènes vraiment très, 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 très émouvantes, très sympathiques, où l'on voit ses copines qui viennent la soutenir et qui viennent poser leurs chaises sur le quai pour attendre avec elle. On sent, voilà, donc sans un mot et qu'avec les images, on se retrouve dans un récit. Et alors là, ça va basculer, on va partir petit à petit dans un récit où il va presque y avoir du 007, du James Bond dans leurs aventures. Oui, c'est difficile de raconter parce que ça
faut laisser le lecteur découvrir, bien sûr.
Mais en fait, c'est donc une bande dessinée qui fait 225 pages quand même, avec des dessins d'une précision, d'une émotion qui est vraiment à souligner. On trouve toutes les problématiques liées à la mer, à savoir la pollution, la surpêche, les bateaux de croisière, enfin tout y passe, les pirates, les pirates récents, enfin actuels, donc les problèmes de douane, enfin il y a vraiment de tout. On se retrouve à Cuba, on se retrouve avec le Che, on se retrouve, enfin bref, il y a vraiment.
Voilà, donc comme quoi sans un mot.
Sans un mot.
Et sans tricherie, parce que là, tu le feuilletais devant nous, et je dis, il n'y a même pas des journaux qui apparaîtraient dans les images ou des choses donc il n'y a pas... Comment on appelait ça en bande dessinée, de phylactère, voilà, le terme technique, pour les bulles où on met le texte. Et puis, mais il n'y a rien du... Il n'y a pas un mot dans ces pages-là.
Alors, juste, je vous lis quand même.
Alors,
parce
vas-y,
y a quand même
et puis... Il y a quand même un peu de choses écrites en quatrième de couverture.
Alors, ce livre ne contient que des idées pêchées au grand large par Wilfried Lupano, selon des techniques artisanales respectueuses de l'environnement culturel et mises en boîte à la sardinerie graphique Panaccione, Milan, Italie, Union européenne. Ingrédients: océan, entre parenthèses, eau, sel, détritus. Amour, entre parenthèses, eau de rose, baiser, mariage. Sardines, mouettes, crêpes, homards, bigoudaines endeuillées, sauce, entre parenthèses, aventure, suspense, second degré, drame sentimental, rebondissement absurde, gag désopilant. Che Guevara, 0,5%, arôme artificiel de Vierge Marie. Garantie sans dauphin, sans texte ni onomatopée, peut contenir des traces de pictogrammes. À consommer de préférence avant que l'océan ne fasse plus rêver. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Valeur énergétique, plein. Protéines, naufrage, tempête, action, poésie, voyage, 65 grammes. Glucides, paysage sublime, mélodrame sirupeux, 35 grammes. Lipides, humour gras, moralisme, 0 grammes. Capacité, 400 millilitres, poids net, 900 grammes. Effectivement, il est lourd. Voilà. Donc, un océan d'amour de Lupano Panaccione, dans toutes les bonnes librairies, même si c'est un titre qui date encore.
Et alors l'éditeur...
Et l'éditeur, pardon, Delcourt.
Delcourt, un prestigieux Mirage. Éditeur de bande dessinée. Ouais. D'accord.
Et juste pour vous donner une petite indication, Lupano, c'est celui qui est le scénariste des Vieux Fourneaux, une série qui est quand même... au moment où ils ont publié Un océan d'amour, il y avait 2 tomes, mais je crois qu'on doit être au 5e, 6e tome des Vieux Fourneaux. Voilà. Donc, quelqu'un qui a du talent pour voilà. mettre les...
Et on peut le lire à tout moment, il n'y a pas de date de péremption.
Voilà. Oui, parce que c'est ça.
Ce n'est pas à consommer avant telle date, ça peut se consommer quand on veut. Allez, Nicolas Bouvier, tu avais plusieurs titres, Hélène. Alors, allez, on a un petit peu de temps pour que tu nous parles d'un autre titre de Nicolas Bouvier.
Oui, toujours autour de l'image, puisque Nicolas Bouvier a tenu une chronique, c'était des rubriques dans une revue genevoise qui s'appelait « Le temps stratégique ». Alors, il a réuni quelques 25 articles, chacun autour d'une image, autour de laquelle il brode lui-même en quelques pages. Et en couverture, on a une miniature du 18e en couleur. Et c'est un combat d'éléphants. Ce sont presque les éléphants roses qu'on voit quand on est en état d'ébriété, parce qu'ils sont vieux roses, ils sont beige rosés, les éléphants. Il y en a un qui écrase l'autre, ils sont excités par leur cornac et le cornac qui est sous la patte de l'éléphant vaincu est en mauvaise posture. Alors c'était, nous explique Bouvier dans le bouquin, un divertissement imbécile destiné à amuser les rajas et les maharajas, les combats d'éléphants. Alors le premier chapitre s'intitule « Il y a blé et blé » et il s'ouvre sur une illustration en noir et blanc qui pourrait être un blason. Et en fait, Bouvier écumait les musées suisses pour trouver des marques qui figuraient sur les sacs de blé des XVIIe et XVIIIe siècles. Et cette espèce de blason très fouillé, très recherché, c'en est une. Alors dans ce chapitre, il consacre 4 pages à la rencontre avec un autostoppeur ruisselant de pluie qu'il prend dans sa voiture et qui promène 5000 francs suisses dans son sac. Et puis ensuite, 1 page pour le musée, le conservateur et les marques sur les sacs de blé qui sont très variées, licornes, volcans, têtes de mort, etc. Alors j'ai choisi un autre chapitre qu'il a intitulé « Peau d'âne ». En réalité, ce sont 2 marionnettes chinoises, pékinoises du 19e siècle, en couleur. Et c'est un âne face à un musicien qui essaie de le faire danser. Alors Bouvier nous explique que les marionnettes indonésiennes et indiennes, les wayang kulit hein, pour Java, qui sont en peau de buffle, elles le sont toujours, coloriées, mais en cuir trop épais pour qu'on voit les couleurs au moment de la projection du théâtre d'ombre. On ne voit que les ombres découpées sur le drap qui sert d'écran dans les villages quand le marionnettiste passe. Or, les Chinois ont trouvé le moyen de faire des marionnettes donc toujours plates, en peau d'âne grattée, qu'il plongeait dans un bain d'huile, ce qui fait qu'elle devenait translucide et que quand on projetait le théâtre d'ombre, on voyait les couleurs. Oh wow. Donc c'était l'invention du premier cinéma en couleurs. Qu'est-ce qu'il nous propose encore? Un chapitre « Fantômes et autres citoyens de mauvaise compagnie ». Alors, on y voit à la fois un très joli fantôme qui est l'œuvre de Hokusai, en gris, au pinceau, très gracieux. Et puis, si on tourne la page, on voit des silhouettes de fantômes découpées dans des... qu'il a trouvées en 1956 dans des boîtes de cornflakes. Alors, ce sont les fantômes vengeurs. Il y en a un qui tient une tête, l'autre qui avale ou qui crache un bras, je ne sais pas. Et Bouvier nous dit, au Japon, toute âme morte dans la violence ou au terme d'un procès injuste reçoit aussitôt sa forme de fantôme vengeur. Et on connaît dans l'histoire japonaise plusieurs cas où des bourreaux ont été mordus par la tête qu'ils venaient de décoller.
Donc Nicolas Bouvier, là, donc le deuxième titre que tu nous proposais, histoire du, au pluriel, d'une image. Hein, comme quoi, vous voyez, l'image aujourd'hui occupe sa place dans notre... petit bazar, bazar raisonnable, mais bazar quand même, parce que aller trouver les liens entre les livres, si vous y arrivez, vous avez gagné. Je ne sais pas quoi, mais vous avez gagné.
On n'a pas fait exprès, mais on est venu avec des images.
Il y a les images qui sont, qui sont au premier plan.
Rachel.
Donc, alors, rappelons les titres de ce que nous avons. Histoire d'une image, et puis Le hibou et la baleine de Nicolas Bouvier. C'est chez un éditeur suisse, c'est logique, c'est Zoé.
Mais Alice, c'est disponible.
Et c'est disponible. Vérifié. Oui, tes éditions ne sont pas toutes récentes, mais c'est disponible
oui,
encore.
Dans d'autres éditions en poche.
Alice Zénitaire, L'art de perdre, un roman, un gros roman publié chez Flammarion. Et puis, Un océan d'amour de Lupano Panaccione. C'est chez Delcourt. Alors, dans le bazar, allez juste pour vous. Dire qu'on avait encore des munitions. Moi, j'avais prévu éventuellement vous parler de Jean Moucabré, un auteur que j'aime beaucoup.
Là, il faut un bazar à toi tout seul.
Mais là, on peut prendre du temps sur Jean Moucabré. Et puis, j'avais ressorti une vieille lecture que j'aime beaucoup, qui était Hermann Hesse, le jeu des perles de verre. Un roman où la musique a une place importante et la musique est importante pour moi. Alors, est-ce qu'on a le temps tout petit, très rapide, deux infos pour l'agenda? Laurence, alors.
Alors, l'agenda. Cette semaine, on vous propose. Enfin, c'est pas pour cette semaine, c'est à noter à partir de cette semaine et voilà. Pour les semaines qui viennent, trois sorties possibles. La première, ce vendredi, le 8 février à 19h30, à la librairie La Géosphère, une rencontre autour de Beyrouth. Alors, l'ouvrage qui est à l'occasion de cette rencontre, c'est Un café à Beyrouth, par Anne Duplan et Valérie Rollin. Donc, c'est à 19h30. La deuxième sortie possible, c'est le 26 février. À 20h30, c'est beaucoup plus loin, c'est à Pont-Saint-Esprit, mais bon, c'est dans le Gard, il y a sans doute des gens qui nous écoutent aussi dans le Gard. Donc là, ce sont les Amis du Champ de la Terre, le Champ de la Terre est une librairie de Pont-Saint-Esprit, qui propose une soirée autour de Abbas Kiarostami.
Kiarostami, le réalisateur, la maison dans les Oliviers, où est la maison de mon ami, voilà.
Le goût des cerises, de la cerise, etc. Donc il est aussi, c'est aussi un poète, et donc là, c'est autour de sa poésie, Des milliers d'arbres solitaires. Et enfin, le 3 mars, le dimanche 3 mars, de 10h à 18h à Frontignan, il y a le Salon du Livre Ancien et Moderne, qui est organisé par les bousquinistes et libraires de la Mémoire du Livre, donc à Frontignan, le 3 mars, à la Salle de l'Air. Voilà.
Voilà pour quelques événements littéraires. C'est la fin de notre bazar. Un petit peu débordé, on s'excuse. Merci à vous, mesdames. Merci à Bruno pour la technique. Bonne lecture et à très bientôt.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.